il y a un intellectuel classique dont j'ai fait partie et dont je fais hélas encore partie. Et puis un intellectuel différent est apparu au mois de mai 68. Ont comme métier de constituer des données techniques ou pratiques de manière quelconque à partir d'un savoir scientifique.
Radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Alors vous avez été complètement traumatisés par notre dernier épisode qui traitait de la sexualité des Grecs. Un peu plus de douceur avec ma rubrique, un café avec Ariane. Bonjour Ariane.
Bonjour Mathilde.
Alors Ariane, tu es en M2 d'histoire médiévale notamment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours en histoire médiévale ?
Alors je suis rentrée à l'école avec un projet de recherche sur les Mérovingiens, parce que c'est mon dada à la base, l'économie chez les Mérovingiens.
J'aime beaucoup les histoires de gens qui se retrouvent à des années-lumière de leur projet de recherche.
C'est ça. Bah, en fait, quand j'ai présenté mon sujet de recherche à des potentiels directeurs, on m'a dit « Mademoiselle, peut-être à thèse plus 10, vous pourrez le faire, mais pour l'instant, ça ne va pas être possible. »
Pourquoi ? C'était quoi le problème ?
Très peu de sources. Surtout. Et des sources qui ne traitent pas forcément de l'économie en plus directement. Donc ça aurait été un petit peu compliqué.
Alors, quelle mémoire t'as fait à la place et comment tu y es arrivée ?
Alors, j'ai rencontré Mathieu Arnoux, qui est directeur d'études à l'EHESS, pour parler de sujets de recherche potentiels. Et il m'a proposé de travailler sur les textiles. Au départ, sur les textiles mérovingiens, pour ne pas être trop éloigné de mon sujet. Mais là, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué aussi. Il m'a dit qu'il y avait un fonds à l'école normale de Pise qui n'avait pas encore été beaucoup traité, sur lequel il travaillait avec une équipe de chercheurs. Ce fonds est le fonds Salviati, qui se trouve donc à la Scuola Normale Superiore.
Alors des fonds sur les tissus, des textes sur les tissus ou des tissus ?
Alors non, c'est des fonds plus précisément qui proviennent d'une famille de commerçants florentins. Ouais. Et ces commerçants florentins, ils vendaient vraiment tout et n'importe quoi. Du coton, de la laine, de la soie, mais aussi des épices.
Et tu peux nous préciser un peu la période du coup ?
Alors le manuscrit le plus ancien qu'on a date de 1390 et quelques. Ouais. Et après, ça s'étend jusqu'au XVIe et même plus loin. Aujourd'hui encore, on parle des princes et des princesses de la famille Salviati, donc c'est dire à quel point ça perdure.
Et donc, tu as commencé à travailler sur aussi la comptabilité médiévale, il me semble.
Voilà, parce que ce sont des archives, beaucoup des archives comptables. Il y a des lettres, des choses comme ça, mais moi, je ne m'en occupe pas du tout.
Et donc, c'est comme ça, en voulant travailler sur les Mérovingiens, qu'on se retrouve avec la comptabilité médiévale et l'histoire du textile. Jolie histoire.
Oui, j'allais dire quand même, le textile, c'est un peu plus sexy que la comptabilité, mais on est vraiment ce côté-là.
Oui, non, mais c'est ça aussi, quand tu me parles de tes recherches, moi je suis toujours un peu impressionnée par cet aspect technique, finalement, parce que je disais tout à l'heure que tu as vraiment des recherches très intéressantes, mais je me demande vraiment, quand tu travailles finalement, est-ce que c'est pas un peu obscur, est-ce que c'est pas un peu difficile de se plonger dans ces sources-là ?
Si, c'est-à-dire qu'en M1, j'ai régulièrement pleuré devant mes archives, j'ai un peu arraché les yeux devant, mais on s'en sort, il n'y a pas de souci. J'ai eu la chance d'être intégrée à une équipe de recherche, ouais, avec des gens qui, eux, étaient habitués à lire ce genre d'archives. Et donc, ils m'ont appris. C'est comme si j'avais pris un troisième cours de paléographie en plus de ceux de Lyon 2 et de l'ENS.
Et alors, tu es passé cette année sur une sorte de projet fou, c'est-à-dire continuer ton master d'histoire en M2 et commencer un nouveau master. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça ?
Oui, alors j'ai commencé un second master en architecture de l'information.
Ici à l'ENS.
Ici à l'ENS, tout à fait. Donc, c'est une formation assez nouvelle puisqu'on est la troisième promotion. Et en fait, c'est deux formations qui sont très articulées pour moi parce que, au cours de mes recherches en histoire, je me suis aperçue à quel point l'informatique et l'interface, ça pouvait être très important. Par exemple, on a une partie de nos manuscrits qui sont numérisés, mais ils sont numérisés de telle façon que c'est très beau, mais c'est absolument pas pratique. Moi, je peux pas lire devant ça. Je préfère avoir pris mes photos moi-même. De la même façon, j'ai aussi fait un stage en musée. Et je me suis aperçue à quel point l'informatique c'était important dans les sciences humaines aussi à ce moment-là, parce que quand j'ai vu que leur base de données ressemblait à mon Windows 95, je me suis dit c'est pas possible, je comprends pourquoi les conservateurs ne l'utilisent pas, pourquoi personne ne sait l'utiliser, c'est trop moche.
Ouais, on est vachement dépendant de ce genre d'outils justement, et je pense qu'on est vraiment une génération où on peut plus passer finalement des logiciels dans l'histoire.
Voilà. Et plutôt que de suivre des cours un peu partiels ou approximatifs, j'ai préféré carrément faire une formation supplémentaire.
Tu as l'impression que tu vas plutôt avoir... dans ce que tu vas faire plus tard, parce que c'est vrai qu'on l'aborde rarement cette question, mais ce que tu vas réellement faire plus tard, tu as l'impression que tu vas avoir la carrière de quelqu'un qui fait un master d'histoire avec un savoir qui t'a été apporté par ton master d'architecture de l'information, ou ce serait le contraire ?
Alors, je crois que je me dirige vers une carrière qui n'existe pas encore. Je suis en train d'inventer un nouveau métier.
Créer ton métier, d'accord.
Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment travailler dans le patrimoine, mais côté numérique.
Ouais.
Et il y a des postes qui s'ouvrent dans les musées maintenant, on appelle ça de conservateur à la numérisation, ou encore des postes de digital au sein des musées. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pour le coup, je pense qu'il faut vraiment avoir les deux formations, une formation de chercheur en histoire de l'art, et une formation en informatique, un minimum.
Alors, je sais que tu m'as dit l'autre jour que tu avais eu la chance d'intervenir dans un colloque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience ?
Alors, tout à fait. Je suis intervenue, en fait, dans un atelier à Porto qui réunissait la plupart des membres de mon équipe de recherche, qui s'appelle donc Enpresa et qui est une enquête ANR. C'était assez enrichissant parce que, du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'on travaille finalement tous sur le même fond. Mais on a vraiment besoin de se parler les uns aux autres pour quand les autres font des découvertes sur leurs propres morceaux d'archives, ça permet de comprendre comment nos propres archives fonctionnent.
Oui, vous êtes sur un gros puzzle et chacun travaille sur un...
C'est ça, mais c'est vraiment articulé ensemble. Enfin, moi, j'ai besoin de savoir ce qu'ont compris les autres pour mieux comprendre mes propres sources.
Mais quand on t'écoute, on ressent vraiment ça, que tu as eu la chance dès le M1, et ça, il me semble que c'est un peu rare quand même, dès le M1 d'être vraiment impliqué dans une équipe de recherche et dans un laboratoire, en fait. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment vécu. Je lance un appel au Lara, si vous voulez vous occuper un peu plus de moi.
Prenez Mathilde. Non, mais c'est vrai, j'ai eu la chance dès le départ de mon M1 d'être intégrée à un groupe de recherche. Et c'est vrai que c'est très agréable, ça évite le cliché du chercheur tout seul en bibliothèque du matin au soir. Moi, j'ai beaucoup travaillé en groupe chez les gens ou par internet. Et vraiment, comme je disais, ça m'a fait gagner un temps infini pour la lecture en paléographie toute seule.
Oui, bien sûr.
Encore.
Et c'est aussi quelque chose qui t'a aidé d'un point de vue purement logistique et pratique quand tu es allée voir tes sources à Pise, non ?
Bah oui, parce que j'étais pas toute seule la première fois que je suis arrivée à l'école normale de Pise. Donc on m'a aidé à trouver la salle, à voir comment ça fonctionnait, comment fonctionnaient les livres eux-mêmes. C'était très agréable.
Ouais, ça fait deux fois du coup que tu vas à Pise pour tes archives finalement, pour tes sources.
Tout à fait. Et je vais y retourner encore au mois de mai, pendant 3 semaines. S'il y a des gens qui veulent passer me voir.
Alors il y a plusieurs appels qui auront été faits pendant cette émission. Je crois qu'on est un peu sans amis, Ariane, quand même.
Chut.
Et finalement, est-ce que tu peux nous donner un exemple de cours qui t'a particulièrement marqué dans ce domaine-là ? Parce que c'est vrai que ça paraît peut-être un peu abstrait pour les auditeurs.
Les cours, je les ai beaucoup choisis donc en fonction de mon sujet de recherche. Et finalement, c'est un sujet qui à la fois aborde l'histoire économique, l'histoire technique, une histoire aussi sociale, parce qu'en fait, je ne travaille pas sur le textile, mais sur les conditions des ouvrières de la laine dans le cadre du commerce de textile à Florence. Du coup, comme exemple de cours, je suis un cours sur l'économie pontificale à la même époque, avec Jacques Chiffolo. Je suis aussi un cours, un séminaire sur l'Occident méditerranéen, à Lyon 2, avec Jean-Louis Golin.
D'accord.
Et un cours, autrement, sur le textile et l'histoire du textile à l'EHESS de Paris. Et c'est super intéressant dans ce cours-là, parce qu'on part du principe qu'on apprend en faisant aussi. Et du coup, on se retrouve vraiment à filer de la laine,
c'est
à tisser, parce que j'ai aussi fait une formation d'analyse de textile ancien. Du coup, c'est super important pour moi de savoir comment est fait un textile de A à Z.
On essaie souvent de montrer qu'on a vraiment des savoirs techniques en histoire. Et moi, quand je parle de savoirs techniques, c'est la maîtrise d'une langue, ça va être la maîtrise de techniques paléographiques, tout simplement. Et c'est vrai qu'on oublie que ça peut aussi aller plus vers quelque chose qui ressemble à de l'archéologie, finalement. Archéologie textile, on parle de ça ou...
Oui, ça se dit, mais bon, en général, c'est pour parler de techniques et de périodes bien particulières, mais je pense qu'on peut l'associer.
D'accord. Ouais. Bon alors, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Un café avec, déjà je signale à nos auditeurs que je commence à en avoir un petit peu marre de ces invités qui refusent de boire du café. Toute ma théorie sur les historiens consommateurs de café s'effondre littéralement puisque tu as pris du thé glacé. Que penses-tu du velouté tomate basilic ?
Je dois avouer que quand on a fait une longue route en voiture, typiquement Paris-Hambourg, je suis bien contente d'avoir un velouté à la tomate.
Oh
à
mon chemin. Dieu, j'ai enfin quelqu'un qui apprécie le velouté tomate basilic.
Je suis bien heureuse, Mathilde, de savoir qu'on va 5 ans pour faire des voyages en voiture lointains ensemble.
Mais je te pardonne l'Aïsti alors.